Chapitre 7. Un matin, quelques semaines après son retour à Lowick, Dorothée... Mais pourquoi toujours Dorothée? N'y avait-il donc dans ce ménage que son seul point de vue à considérer? Pourquoi réserverions-nous tout notre intérêt, toute notre faculté de compréhension, aux jeunes créatures qui conservent un air florissant au milieu de leur chagrin? Car celles-ci aussi se faneront, et connaîtront les soucis usants et les souffrances d'un âge plus avancé, dont nous les encourageons à ne pas se préoccuper. En dépit de ses yeux clignotants, des loupes blanches que lui reprochait Célia, et de l'absence de rondeur musculaire qui contristait Sir James, M. Casaubon avait au cœur un foyer de sentiments intenses, une soif intellectuelle aussi insatiable que les appétits du reste des humains. Il n'avait, en se mariant, rien fait d'exceptionnel, rien que ce que la société sanctionne et considère comme une occasion de fleurs et de banquets. Il avait trouvé un beau jour qu'il n'y avait plus à différer dans ses intentions matrimoniales, et il s'était dit qu'en prenant femme, un homme bien posé devait désirer et choisir avec soin une jeune lady florissante. La plus jeune serait le mieux parce qu'elle serait alors plus éducable et plus soumise, d'un rang égal au sien, ayant des principes religieux, d'honnêtes penchants et l'intelligence saine. À une telle jeune fille, il ne manquerait pas d'assurer de beaux revenus et ne négligerait aucun soin pour son bonheur. En retour, il recevrait d'elle les joies de la famille et laisserait derrière lui cette copie de lui-même que les faiseurs de sonnets du XVIe siècle semblaient réclamer de tout homme avec tant d'insistance. Les temps étaient changés. Et nul faiseur de sonnet n'avait insisté auprès de M. Casaubon pour qu'il laissât au monde une copie de lui-même. D'ailleurs, il n'était pas encore venu à bout de la copie de sa clé des mythologies. Mais il avait toujours eu l'intention de se mettre en règle avec la nature par le mariage. Et avec le sentiment de sa solitude, l'impression que les années fuyaient rapidement derrière lui, que le monde devenait plus obscur, était pour lui une raison de ne pas perdre plus de temps à se donner ses joies domestiques avant que les années ne l'en privassent pour toujours. En voyant Dorothée, il crut avoir trouvé plus même qu'il ne demandait. Elle était capable d'être pour lui une aide véritable qui le dispenserait de prendre un secrétaire payé, sorte de gens que M. Casaubon n'avait jamais employés et qui lui inspirait une craintive méfiance. M. Casaubon sentait avec humeur qu'on s'attendait toujours à le voir donner des signes d'un puissant esprit. La Providence, dans sa bonté, l'avait pourvu de la femme qu'il lui fallait. Une jeune fille modeste, douée des capacités discrètes de son sexe, en état d'apprécier le mérite des autres, ne manquerait pas de trouver puissant l'esprit de son mari. La question de savoir si la Providence avait pris un soin égal de Miss Brooke, en lui présentant M. Casaubon, était une idée qui ne pouvait lui venir. La société n'a jamais eu l'absurdité d'exiger qu'un homme se préoccupe autant des facultés qu'il possède pour rendre heureuse une charmante jeune fille que des facultés de cette jeune fille pour le rendre heureux lui-même. Comme si un homme n'avait pas assez à faire de choisir sa femme, mais devait encore choisir le mari de sa femme. Ou comme s'il était tenu de se préoccuper, en sa propre personne, des grâces qu'il transmettra à sa postérité. Quand Dorothée l'accepta avec effusion, M. Casaubon trouva la chose toute naturelle et crut que son bonheur allait commencer. Sa vie passée ne lui avait jamais fourni un grand avant-goût de bonheur. Pour connaître une joie intense, il faut, à défaut d'une forte charpente corporelle, posséder une âme enthousiaste. M. Casaubon n'avait jamais eu une forte charpente, et son âme était sensible sans être enthousiaste. Elle n'avait pas assez de ressort pour s'élancer jamais hors de sa propre conscience et goûter des jouissances passionnées. Elle continuait à s'ébattre sur le sol marécageux où elle était née, songeant à ses ailes sans jamais s'envoler. Il était doué de ce caractère malheureux qui fuit la pitié et craint plus que tout d'être connu. Une sorte de sensibilité fière et étroite qui n'a pas assez de grandeur pour se transformer en sympathie et reste à trembler comme un fil dans les petits courants de la préoccupation personnelle, ou plutôt d'un égoïsme scrupuleux, car M. Casaubon était rempli de scrupules. Il était capable de s'imposer de grandes privations. Il était résolu à être toujours homme d'honneur selon le code. Aux yeux de tous les juges autorisés, il passerait toujours pour irréprochable. Il y était parvenu dans sa conduite privée, mais la difficulté de rendre également irréprochable sa clé de toute la mythologie pesait comme du plomb sur son esprit. Et les brochures par lesquelles il voulait tâter le public et poser quelques notions fondamentales de son système étaient loin d'avoir été comprises dans toute leur importance. Il soupçonnait l'archidiacre de ne pas les avoir lues. Il avait des doutes pénibles sur ce qu'en pensaient réellement les fortes têtes de Brasenose, et il était amèrement convaincu que sa vieille connaissance Camps était l'auteur de certains examens critiques qu'il tenait soigneusement enfermés sous clé dans un petit tiroir de son bureau, et aussi, sans en perdre un mot, dans un sombre recoin de sa mémoire. C'étaient là de dures impressions contre lesquelles il lui fallait lutter, et qui avaient amené chez lui cette amertume mélancolique, conséquence ordinaire des prétentions exagérées. Sa foi religieuse même chancela, lorsque chancela sa confiance dans sa puissance de savant. Et les consolations que procure dans la foi chrétienne l'espérance de l'immortalité semblaient dépendre pour lui de l'immortalité de la clé de toute la mythologie, laquelle n'était pas encore écrite. Pour ma part, je le plains profondément. C'est pour le moins un sort pénible que d'être versé dans les choses les plus élevées, et pourtant de ne pas jouir d'être présent au grand spectacle de la vie et de ne jamais pouvoir se délivrer de son être borné, affamé, grelottant, de ne jamais être pleinement possédé de cette gloire que nous contemplons, de ne jamais sentir notre conscience intime se transformer dans un élan d'extase pour devenir le feu vivifiant d'une pensée, l'ardeur d'une passion, l'énergie d'une action, mais de rester toujours un érudit sans inspiration, obscur et scrupuleux dans ses vues, ambitieux et timide à la fois. À cet état mental qui avait commencé à se dessiner un quart de siècle déjà avant l'époque de notre récit, et à des sentiments ainsi tenus en bride, M. Casaubon avait songé à annexer le bonheur sous la forme d'une jeune et charmante femme. Mais dès avant son mariage, ainsi que nous l'avons vu, il se trouva saisi d'un nouvel abattement, en sentant que sa nouvelle félicité ne le rendait pas heureux. D'instinct, il aspirait déjà à retrouver ses anciennes et plus commodes habitudes, et plus il s'enfonçait dans la vie conjugale, plus l'idée du devoir à remplir, des convenances à observer, dominait chez lui toute autre satisfaction. Le mariage, comme tout le reste, représentait surtout pour lui le respect des convenances extérieures, et Édouard Casaubon était toujours prêt à remplir toutes les exigences semblables d'une façon irréprochable. Le fait même d'introduire Dorothée dans son cabinet pour se faire aider d'elle, comme il en avait eu l'intention avant son mariage, demandait un effort qu'il était toujours tenté de différer, et sans l'insistance suppliante de sa femme, il ne s'y serait peut-être pas décidé. Mais elle avait réussi à établir, comme une chose toute naturelle, que tous les matins, de bonne heure, elle viendrait s'installer dans la bibliothèque pour y procéder à un travail régulier, soit de copie, soit de lecture à haute voix. Ce travail avait été facile à déterminer, car M. Casaubon s'était décidé à faire paraître immédiatement une nouvelle brochure, une petite monographie sur les mystères des Égyptiens, qui devait réfuter certaines assertions de Warburton. Les travaux préparatoires auxquels il se référait étaient fort étendus, mais toutefois pas absolument sans limite. Il s'agissait pour le moment de les rédiger dans la forme où ils auraient à affronter le jugement de la postérité, et d'abord celui plus redoutable encore de Brasenose. Ses productions, moins monumentales que sa grande œuvre, étaient toujours une cause d'agitation pour M. Casaubon. Sa digestion se ressentait des citations qui lui venaient à l'esprit et des arguments dialectiques qui se contrecarraient dans son cerveau. C'est ainsi qu'il se trouvait à une des époques les plus occupées de sa vie. Dorothée l'avait rejoint de bonne heure dans la bibliothèque où il avait déjeuné seul. Célia, en visite à Lowick pour la seconde fois, la dernière probablement avant son mariage, attendait pendant ce temps Sir James au salon. Dorothée avait appris à lire les signes de l'humeur de son mari, et elle vit que la matinée était devenue plus sombre dans la bibliothèque pendant la dernière heure qu'il venait d'y passer. Elle se dirigeait sans rien dire vers son pupitre quand il l'appela d'une voix faible, marquant qu'il s'acquittait d'un devoir désagréable. « Dorothée, voici une lettre pour vous, qui était incluse dans une autre, adressée à moi. » C'était une lettre de 2 pages, et elle regarda immédiatement la signature. « Monsieur Ladislav, que peut-il avoir à me dire ? » s'écria-t-elle d'un ton de joyeuse surprise. Mais, ajouta-t-elle en se tournant vers Monsieur Casaubon, « j'imagine bien à quel propos il vous écrit. » « Lisez sa lettre, je vous prie, » dit Monsieur Casaubon, la désignant sévèrement du bout de sa plume et sans regarder Dorothée. Mais je puis bien vous prévenir tout de suite que je devrais écarter sa proposition de venir nous voir ici. Je pense être suffisamment excusé par mon désir de jouir enfin d'un laps de temps absolument libre de ces distractions qui ont été inévitables jusqu'ici, à l'abri surtout de certains visiteurs dont la vivacité exubérante fait que leur présence constitue une fatigue pour moi. Il ne s'était pas produit de nouveau choc entre Dorothée et son mari depuis la petite explosion de Rome. Celle-ci avait laissé au cœur de Dorothée des traces si profondes qu'elle avait trouvé plus facile d'étouffer son émotion que d'affronter le risque de lui laisser un libre cours. Mais cette crainte, produit de la mauvaise humeur, qu'elle pût désirer des visites désagréables à son mari, cette défense qu'il prenait gratuitement de lui-même, comme pour prévenir toute plainte égoïste de la part de sa femme, c'était là une blessure trop aiguë pour la ressentir avec calme et laisser à la réflexion le temps de l'effacer. Dorothée croyait autrefois que sa patience eût pu tout endurer avec John Milton, mais elle n'avait jamais imaginé que Milton se pût conduire ainsi, et pour un instant, M. Casaubon lui fit l'effet d'être stupidement aveugle et odieusement injuste. La pitié, cet enfant nouvellement né, qui devait peu à peu calmer plus d'un orage dans son cœur, n'était pas venue encore. Ses premiers mots, prononcés d'un ton qui fit tressaillir M. Casaubon, le forcèrent à la regarder et à rencontrer l'éclair de ses yeux. « Pourquoi m'attribuez-vous le désir d'une chose quelconque qui pourrait vous déplaire ? Vous me parlez comme si vous aviez en moi un obstacle à combattre. Attendez au moins que j'aie l'air de ne consulter que mon plaisir et pas le vôtre. » « Dorothée, vous êtes bien prompte, » répondit nerveusement M. Casaubon. Décidément, cette femme était trop jeune pour ce formidable niveau d'épouse où il l'avait élevée. Ou bien il lui fallut pâle, effacée, sans physionomie, disposée à accepter toutes choses établies. « Je trouve que c'est vous qui avez été prompt dans vos fausses suppositions sur mes sentiments, » dit Dorothée du même ton. Le feu n'était pas encore apaisé dans son cœur, et elle trouvait odieux que son mari ne lui fît pas d'excuses. Nous n'en dirons pas davantage sur ce sujet, si vous voulez bien, Dorothée. Je n'ai ni loisir ni énergie à consacrer à ce genre de débat. » M. Casaubon plongea sa plume dans l'encrier et fit mine de se remettre à écrire. Mais sa main tremblait si fort que les mots paraissaient écrits en caractères inconnus. Il y a des réponses qui, en détournant la colère, ne font que l'envoyer à l'autre bout de la chambre, et ces choses exaspérantes, dans la vie du ménage plus encore qu'entre philosophes, de voir couper court froidement à une discussion quand on sent qu'on a toute la justice de son côté. Dorothée laissa les 2 lettres de Ladislav sans les lire sur le bureau de son mari, et vint se mettre à sa place ordinaire, rejetant ses lettres dans son dédain et son indignation, comme nous repoussons loin de nous une bagatelle qui nous a fait soupçonner d'une basse envie. Elle ne devinait pas de quelle source cachée venait, à propos de ses lettres, la mauvaise humeur de son mari. Elle ne savait qu'une chose, c'est qu'elles étaient la cause de l'offense qu'il lui avait faite. Elle se mit immédiatement au travail, et sa main ne trembla point. Tout au contraire, en transcrivant les citations qui lui avaient été désignées la veille, elle sentit qu'elle formait admirablement ses lettres, et il lui sembla qu'elle suivait plus clairement que de coutume la construction du latin qu'elle copiait, et commençait à le comprendre. Il y avait dans son indignation un sentiment de supériorité qui trouva une issue au dehors dans l'énergie de son écriture. S'il avait dû se comprimer au-dedans d'elle-même, n'aurait-il pas abouti à une voix claire de l'âme déclarant que l'archange affable d'autrefois n'était qu'une pauvre créature? Ce calme apparent avait duré une demi-heure, et Dorothée n'avait pas levé les yeux lorsqu'elle entendit la chute bruyante d'un livre sur le plancher. Se détournant aussitôt, elle vit M. Casaubon debout sur le marchepied de la bibliothèque, se cramponnant en avant comme s'il était saisi d'un mal subi. Elle se leva précipitamment et d'un bond fut à lui. Il faisait évidemment de violents efforts pour respirer. Montant sur un tabouret, elle s'approcha de lui et lui dit d'une voix où toute son âme se fondait dans une alarme de tendresse, « Pouvez-vous vous appuyer sur moi, mon ami ?» Pendant 2 ou 3 minutes qui parurent interminables à Dorothée, il demeura muet, incapable de parler ou de bouger, faisant pour respirer des efforts convulsifs. Lorsqu'il put enfin redescendre les 3 marches et retomba sur le fauteuil que Dorothée lui avait avancé au pied de l'échelle, il ne se débattait plus, mais paraissait sans force et près de s'évanouir. Dorothée tira violemment la sonnette et l'on aida aussitôt M. Casaubon à gagner un lit de repos voisin. Il ne s'évanouit pas et il revenait peu à peu à la vie lorsque Sir James entra. Il venait d'apprendre dans le vestibule que M. Casaubon avait eu une attaque dans la bibliothèque. À son entrée, M. Casaubon put donner quelques signes de sa politesse habituelle. Et Dorothée, qui, dans la réaction de sa première terreur, était restée agenouillée à pleurer près du canapé, se leva et proposa d'envoyer quelqu'un à cheval pour chercher un médecin. Le maître d'hôtel ne se souvenait pas que son maître eût jamais eu besoin d'un médecin auparavant. « Je vous engage à faire appeler Lydgate, » dit Sir James. « Ma mère l'a fait venir pour elle et l'a trouvée remarquablement habile. Elle avait une pauvre opinion des médecins en général depuis la mort de mon père. » Dorothée consulta son mari, qui fit, sans parler, un signe d'approbation. M. Lydgate arriva merveilleusement vite. Le domestique de Sir James Chatham, envoyé en messager, l'avait rencontré sur la route de Lowick, conduisant son cheval par la bride et marchant à côté de Miss Vincey. Célia, installée au salon, avait ignoré cette alarme jusqu'au moment où Sir James vint la lui communiquer. Après les explications de Dorothée, il ne regarda plus le mal précisément comme une attaque, mais pourtant comme quelque chose du même genre. « Pauvre cher Dodo, c'est affreux, » dit Célia, se sentant aussi attristée que son parfait bonheur pouvait le lui permettre. Ses petites mains étaient serrées l'une contre l'autre, prises entre celles de Sir James, comme un bouton de fleur librement enveloppé de son calice. « C'est bien affreux que M. Casaubon soit malade, quoique je ne l'aie jamais aimé, et je trouve qu'il n'a pas de moitié assez d'affection pour Dorothée. Il en devrait pourtant avoir, car je suis bien sûr que personne d'autre n'eût voulu de lui. Croyez-vous que d'autres eussent voulu de lui ? J'ai toujours vu dans ce mariage un horrible sacrifice de la vie de votre sœur, dit Sir James. Oui, mais la pauvre Dodo n'a jamais fait ce que font les autres, et je crois qu'elle ne le fera jamais. C'est une noble créature, dit le brave et loyal Sir James. Il venait d'en avoir une nouvelle impression quand il avait vu Dorothée passer son bras avec tendresse sous celui de son mari et tourner vers lui un regard empreint d'une inexprimable douleur. Il ne savait pas combien il entrait de repentir dans cette douleur. « Oui, » dit Célia, trouvant que c'était très bien à Sir James de parler ainsi, mais faisant la réflexion qu'il n'aurait pas eu, lui, une vie très confortable avec Dodo. « Dois-je aller la trouver ? Pensez-vous que je puisse lui être bonne à quelque chose ? Je crois que vous feriez bien d'aller la voir un instant, avant l'arrivée de Lydgate, » dit Sir James avec magnanimité. « Mais n'y restez pas trop longtemps. » Après le départ de Célia, il se promena de long en large, en se rappelant ce qu'il avait éprouvé tout de suite lors des fiançailles de Dorothée, et ressentant comme un retour de son dégoût d'alors devant l'apathie de M. Brooke. Si Cadwallader, si tout le monde avait envisagé la chose comme lui, Sir James, l'avait fait, on aurait pu empêcher le mariage. C'était mal de laisser ainsi une jeune fille disposer en aveugle de sa destinée, sans rien faire pour la sauver. Sir James avait cessé depuis longtemps de ressentir des regrets pour son compte. Son cœur était satisfait de son engagement avec Célia. Mais il était d'une nature chevaleresque. Son amour dédaigné n'avait pas tourné à l'amertume. La mort en avait laissé derrière elle de doux parfums, des souvenirs flottants qui s'attachaient à Dorothée comme une consécration. Il pouvait demeurer pour elle un ami, un frère, et n'apporter à l'interprétation de sa conduite que la plus généreuse confiance. Chapitre 8. Monsieur Casaubon n'eut pas de nouvelle attaque, et au bout de peu de jours, il commença à reprendre sa vie normale. Mais Lydgate parut considérer le cas comme nécessitant beaucoup d'attention. Il restait longtemps assis auprès de son malade à l'observer. Aux questions que lui fit M. Casaubon sur son état, il répondit que la cause de sa maladie tenait à une faute commune aux hommes de science, une application trop forte et continue. Le remède était de se modérer dans son travail et de rechercher la variété dans ses délassements. M. Brooke, qui assistait à l'une de ces conversations, suggéra que M. Casaubon ferait bien de se mettre à pêcher comme Cadwallader, d'avoir un établi de tourneur, de fabriquer de petits objets, des pieds de table et ce genre de choses-là. En un mot, vous me recommandez de prendre les devants sur l'arrivée de ma seconde enfance, dit le pauvre Casaubon, non sans quelque amertume. Ces choses-là, ajouta-t-il en regardant Lydgate, me distrairaient comme pourraient se distraire les prisonniers d'une maison de correction en nettoyant de l'étoupe. J'avoue, dit en souriant Lydgate, que la distraction est une prescription peu satisfaisante. C'est à peu près comme si on demandait aux gens de se maintenir en bonne disposition. Je devrais peut-être vous dire tout simplement de vous soumettre à vous ennuyer un peu, en supprimant quelque chose de votre travail habituel. « Oui, oui, dit M. Brooke, faites jouer Dorothée avec vous au tric-trac le soir. Il y a le volant aussi. Je me rappelle le temps où il était à la mode. Mais au fait, vos yeux ne s'en accommoderaient peut-être pas, Casaubon. Il faut pourtant un peu de délassement, vous savez. Eh bien, pourquoi n'essayeriez-vous pas de quelque étude légère, la conchyliologie, par exemple? Cela doit être, il me semble, une étude facile. Ou bien, demandez à Dorothée de vous lire des choses légères. Smollett, Random, Humphrey Clinker. C'est peut-être un peu leste, mais elle peut tout lire maintenant qu'elle est mariée. Je me souviens d'en avoir ri aux larmes. Il y a un passage des plus drôles à propos des culottes d'un postillon. Nous n'avons plus tant d'humour aujourd'hui. J'ai passé par ces choses-là, moi, mais elles sont peut-être nouvelles pour vous. Aussi nouvelles que l'habitude de me nourrir de chardon, aurait pu répondre M. Casaubon, s'il n'avait écouté que son sentiment. Mais il se contenta de s'incliner d'un air résigné, avec tout le respect qu'il devait à l'oncle de sa femme, en faisant observer que les ouvrages en question avaient sans doute été une ressource pour un certain ordre d'esprit. « Vous voyez, dit l'éminent magistrat à Lydgate, après qu'ils eurent quitté la chambre, Casaubon a toujours été un peu étroit, et le voilà assez embarrassé, maintenant que vous lui défendez son travail habituel, qui doit être quelque chose de très profond, vous savez. » Moi, je n'ai pas donné là-dedans. J'ai toujours aimé le changement. Mais un clergéman est tenu d'un peu plus court. Pourquoi ne pas le nommer évêque à présent? Il a fait pour pile une excellente brochure. Il aurait là plus de mouvement et plus de surface. Il prendrait un peu d'embonpoint. Je vous recommande d'en causer à Mrs. Casaubon. Elle est assez intelligente pour tout comprendre, ma nièce. Dites-lui que son mari a besoin de gaieté et de distraction. Suggérez-lui des moyens de l'amuser. Sans prendre l'avis de M. Brooke, Lydgate était déjà décidé à parler à Dorothée. Elle n'avait pas entendu son oncle formuler à bâton rompu ses agréables conseils sur les nouvelles distractions à introduire à Lowick. Elle était d'ailleurs presque toujours auprès de son mari, et les marques sincères de vive inquiétude qu'amenaient sur son visage et dans sa voix tout ce qui touchait le moral et la santé de M. Casaubon constituaient un drame que Lydgate allait suivre avec intérêt. Il pensait bien qu'il ne faisait que son devoir en disant la vérité à Dorothée sur l'avenir probable de son mari. Mais il pensait aussi qu'il serait intéressant de causer confidentiellement avec elle. Un médecin, par le fait de ses études et de ses observations psychologiques, est trop facilement amené à faire de ces solennelles prophéties que la vie et la mort se chargent de confondre. Lydgate avait souvent exercé sa critique sur ses prédictions gratuites et il était résolu à s'en bien garder. Au moment où il demandait à voir Mrs. Casaubon, qui était allée se promener, elle apparut avec Célia, le visage encore brillant de la lutte contre le vent de mars. Dorothée le fit entrer dans la bibliothèque, uniquement préoccupée de ce qu'il pouvait avoir à lui dire de son mari. C'était la première fois qu'elle pénétrait dans cette pièce depuis la maladie de M. Casaubon, et les domestiques n'en avaient pas ouvert les volets. « Cette obscurité ne vous est pas désagréable, » dit Dorothée, s'arrêtant debout au milieu de la chambre. « Depuis que vous avez interdit les livres, la bibliothèque a été abandonnée. Mais j'espère que M. Casaubon y reviendra bientôt. N'est-ce pas que vous le trouvez mieux ?»« Oui, il se remet beaucoup plus vite que je ne le pensais d'abord. Il est presque revenu à son état normal. » « Vous ne craignez pas de retour de la maladie ?» interrogea Dorothée, dont l'oreille avait été prompte à saisir quelques réticences dans la voix de Lydgate. « Ce sont des cas sur lesquels il est particulièrement difficile de se prononcer. Ce que je peux affirmer à coup sûr, c'est qu'il sera utile de bien surveiller M. Casaubon pour qu'il ne s'expose pas à une trop grande surexcitation nerveuse. « Je vous supplie de me parler franchement, » insista Dorothée. « Je ne puis supporter l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose que je n'ai pas su et dont la connaissance m'aurait fait agir différemment. » Ces mots lui échappèrent comme un cri. Il était évident qu'il venait de trahir quelque expérience douloureuse encore récente. « Asseyez-vous, » ajouta-t-elle, en s'asseyant elle-même sur la chaise la plus rapprochée et en jetant loin d'elle son chapeau et ses gants, repoussant d'instinct toute étiquette lorsqu'une grave question de destinée était en jeu. « Ce que vous dites là met fin à mon hésitation, » dit Lydgate. « C'est notre devoir, à nous, médecins, de prévenir autant que possible de semblables regrets. Mais je vous prie d'observer que la maladie de M. Casaubon est précisément un de ces cas sur l'issue desquels il est le plus difficile de se prononcer. Il peut vivre encore 50 ans ou davantage, sans avoir une santé beaucoup plus mauvaise que par le passé. » Dorothée était devenue très pâle, et quand Lydgate se tut, elle reprit à voix basse, « Vous voulez dire si nous sommes très prudents ?»« Oui, prudents à éviter toute excitation, toute application excessive. » Il serait bien malheureux s'il lui fallait renoncer à son œuvre, dit Dorothée, prévoyant aussitôt la possibilité d'un tel malheur. Je l'ai bien vu. La seule chose à faire est de chercher par tous les moyens possibles à modérer et à varier ses occupations. Grâce à un heureux concours de circonstances, il n'y a, comme je vous le disais, pas de danger immédiat à craindre de cette affection du cœur qui, je le crois, doit avoir été la cause de la dernière attaque. D'autre part, il se peut que le mal se développe plus rapidement. C'est un de ces cas où la mort est quelquefois subite. Il ne faut rien négliger et prendre garde à tout ce qui pourrait amener une crise fatale. Il y eut quelques instants de silence pendant lesquels Dorothée resta assise comme si elle eût été de marbre. Et pourtant la vie était au-dedans d'elle si intense à cette heure que son esprit n'avait jamais encore, en un temps aussi court, franchi un aussi grand nombre de scènes et de spectacles différents. « Aidez-moi, je vous en prie, » dit-elle enfin de la même voix basse. « Dites-moi ce que je puis faire. Que pensez-vous de voyage à l'étranger ? Vous avez été dernièrement à Rome, je crois. » Les souvenirs qui faisaient de cette idée une ressource absolument illusoire créèrent comme un nouveau courant qui secoua Dorothée de sa pâle immobilité. « Oh, pas cela, non. Ce serait pire que tout, » fit-elle avec un désespoir presque enfantin, tandis que des larmes tombaient le long de ses joues. « Rien ne pourra nous être utile, du moment qu'il n'y prend pas plaisir. « Je voudrais vous avoir épargné ce chagrin, » dit Lydgate, profondément ému, mais s'étonnant de la manière dont s'était fait ce mariage. Une femme comme Dorothée était tout à fait en dehors de ses idées sur les femmes. « Vous avez bien agi. Je vous remercie de m'avoir dit la vérité. Vous comprenez du reste que je ne dirai rien qui puisse éclairer M. Casaubon lui-même sur son état. Je crois désirable qu'il ne sache rien de tout cela, si ce n'est qu'il doit éviter tout excès et observer certaines règles. Un ennui, une émotion quelconque, serait à craindre pour lui. » Lydgate se leva, et Dorothée se leva aussi, mécaniquement au même instant, détachant son manteau et le jetant loin d'elle comme s'il l'étouffait. Il la salua et allait la quitter, lorsqu'une impulsion soudaine, qui se serait terminée par une prière si elle avait été seule, la fit s'écrier avec un sanglot dans la voix « Oh, vous êtes un homme éclairé, je le sais. Vous n'ignorez rien de ce qui se rapporte à la vie et à la mort. Conseillez-moi, pensez à ce que je puis faire. » Il a travaillé toute sa vie en vue de cet unique but. Il ne se soucie pas d'autre chose. Et moi, je ne me soucie pas d'autre chose non plus. Bien des années après, Lydgate se rappelait encore l'impression qu'il avait eue de cet appel involontaire, ce cri d'une âme à une âme, entre lesquelles il n'y avait pas d'autre sentiment commun que celui qu'ils étaient deux natures du même ordre, se mouvant dans le même milieu confus, dans la même vie tumultueuse, illuminée par instants d'une flamme incertaine et agitée. Mais que pouvait-il répondre, sinon qu'il reviendrait le lendemain voir M. Casaubon? Après son départ, les larmes de Dorothée coulèrent abondamment et la soulagèrent de son étouffante oppression. Puis elle sécha ses yeux, se souvint qu'il ne fallait pas trahir son chagrin à son mari, et fit du regard le tour de la chambre, s'apprêtant à dire au domestique de la ranger comme d'habitude, maintenant que M. Casaubon pouvait à tout moment désirer d'y revenir. Sur son bureau se trouvaient des lettres qui y étaient restées éparses depuis le jour de l'accident, entre autres les deux lettres de Ladislav. Celle qui lui était adressée n'avait pas même été ouverte. Le souvenir de ces lettres était d'autant plus pénible à Dorothée qu'elle attribuait à l'irritation qu'elle avait témoignée l'agitation de son mari et son attaque subite. Aussi n'avait-elle eu jusqu'ici aucune envie de lire ces lettres, non plus que d'aller les chercher dans la bibliothèque. Mais elle jugea qu'il était prudent de les soustraire à la vue de son mari. Quelles qu'eussent été les causes de son mécontentement, il fallait, si possible, lui éviter tout nouvel ennui à ce sujet. Elle se mit donc à parcourir rapidement la lettre à lui adressée, afin de s'assurer s'il était ou non nécessaire d'écrire pour empêcher cette visite inopportune. Will écrivait de Rome. Ses obligations envers M. Casaubon, disait-il, étaient trop réelles pour que tous les remerciements ne semblassent pas déplacés. Pourrait-il, à moins d'être le misérable le plus dénué de cœur qui ait jamais rencontré une âme généreuse, ne pas lui en avoir une reconnaissance profonde? Se répandre en paroles de remerciement, c'eût été comme de dire « je suis honnête ». Mais Will reconnaissait enfin que son caractère avait besoin pour se former de connaître les difficultés de la vie et la lutte pour l'existence. La générosité de son parent l'ayant jusqu'ici dispensé de toute peine, il espérait, en cessant d'y recourir, se corriger de certains défauts que M. Casaubon lui-même avait souvent relevés. Il n'avait qu'une manière de s'acquitter, si l'on pouvait jamais s'acquitter d'une telle dette, prouver à son bienfaiteur les bons effets de l'éducation qu'il avait reçue, et renoncer désormais à des secours pécuniaires auxquels d'autres avaient plus de droits que lui-même. Il allait revenir en Angleterre pour tenter la fortune, comme tant d'autres jeunes gens qui portaient tout leur capital dans leur cerveau. Son ami Naumann l'avait prié de se charger du tableau de la dispute acheté par M. Casaubon, et que Will, avec la permission de ce dernier et de Mme Casaubon, apporterait en personne à Lowick. On pouvait, si c'était le cas, l'empêcher d'arriver mal à propos en lui écrivant poste restante à Paris au cours de la quinzaine. À cette lettre, il en joignait une autre pour Dorothée, dans laquelle il continuait une discussion sur l'art entamée avec elle à Rome. Puis, sous une forme alerte et vive, les mêmes remontrances à propos de son fanatisme de sympathie, la raillant de ce qu'elle n'avait pas assez de sagesse pour jouir tout bonnement et simplement des choses en elle-même. C'était enfin un débordement de sa jeune et exubérante nature, impossible à lire en ce moment pour Dorothée. Il lui fallait avant tout prendre un parti immédiat pour l'autre lettre. Peut-être était-il encore temps d'empêcher Will de venir à Lowick. Dorothée finit par donner la lettre à son oncle qui se trouvait précisément là, en le priant de faire savoir à Will que M. Casaubon avait été malade et que sa santé ne lui permettait pas de recevoir de visite. Personne de plus disposé à écrire une lettre que M. Brooke. La seule difficulté pour lui était de la faire courte. « Certainement, ma chère, dit-il, j'écrirai. C'est un garçon fort intelligent, ce jeune Ladislav. Je le crois en bon chemin de parvenir. Sa lettre est bien. Elle fait voir son opinion sur toute chose. Je me charge de lui donner des nouvelles de Casaubon. Mais le petit bout de plume de M. Brook était un organe pensant, développant sur le papier une foule de phrases généralement bienveillantes, avant que sa pensée intime pût s'en rendre bien compte. Que sa plume exprimât des regrets ou donnât des conseils, M. Brook, en se relisant, avait toujours lieu d'être satisfait de sa prose, la chose qu'il fallait dire lui venant à souhait, et amenant chez lui une suite d'idées auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. Dans le cas présent, sa plume imagina que c'était grand dommage que le jeune Ladislav ne vînt pas dans le pays à ce moment de l'année, afin que M. Brook pût faire plus ample connaissance avec lui et lui faire voir ses gravures italiennes longtemps négligées. Sa plume prenait un tel intérêt à ce jeune homme, qui commençait son chemin dans le monde avec tout un fond d'idées nouvelles, qu'à la fin de la seconde page, elle avait persuadé à M. Brook d'engager Ladislav à venir à Tipton Grange, puisqu'on ne pouvait le recevoir à Lowick. Et pourquoi pas? Ils trouveraient une quantité de choses à faire ensemble. On était à une époque toute particulière de progrès, l'horizon politique s'agrandissait. La plume de M. Brook enfin se laissa aller à un petit discours qu'il avait dernièrement rédigé pour ce piètre organe de publicité intitulé « Le pionnier de Middlemarch ». Tout en cachetant sa lettre, M. Brook se sentit envahi par toutes sortes de projets confus. Un jeune homme capable de donner une forme à ses idées, le pionnier qu'ils achèteraient afin de frayer la voie à un nouveau candidat, ses documents utilisés, qui pourrait dire enfin ce qui en résulterait? Puisque Célia allait se marier très prochainement, il serait toujours fort agréable d'avoir un jeune compagnon à table avec lui, au moins pour quelque temps. Mais il s'en alla sans faire part à Dorothée du contenu de sa lettre. Elle était occupée auprès de son mari, et dans le fait, ces choses étaient sans importance pour elle.